Mathilde Serrel, dans votre théorie culturelle, vous vous intéressez aux représentations des troubles autistiques à l'écran.
Si le regard sur les troubles autistiques a évolué, vous en parliez ce matin, la fiction et le documentaire se sont fait le miroir, à moins que ce ne soit le regard porté sur ces troubles à l'écran qui ait fait évoluer la perception que nous en avons. Ma théorie est assez simple, Guillaume, la vérité se trouve entre les deux, mais une chose est sûre, dans cette histoire jumelle, nous avons franchi des étapes. Dans la fiction, il suffit de se saisir de l'écart qui sépare le film Rayman, il y a plus de 30 ans, de la série Atypical sur Netflix, dont la troisième saison débutera le 1er novembre. En 1988, Dustin Hoffman est le frère autiste de Tom Cruise dans Rayman de Barry Levinson. La démarche de Dustin Hoffman, sa posture physique, ses intonations sont encore caricaturales et surtout, l'autisme se résume à sa forme Asperger, c'est-à-dire celle de troubles qui cohabitent avec le génie dans certains domaines. Or, les troubles autistiques sont bien plus multiples et il y en a presque autant que de profils. Mais dans le film, Dustin Hoffman est donc ce génie du calcul qui va se révéler à son frère Tom Cruise dans la fameuse scène des cure-dents.
Une addition. Excusez-moi, il m'en fallait un. 82, 82, 82. 82 quoi, Ray? Tu dois combien?
Cure-dents.
Il y en a plus de 82 par terre.
Il y en a 246.
Regardez la monnaie. Mademoiselle, combien il y a de cure-dents dans la boîte?
250.
Pas très loin. Allez, viens, on y va.
246.
Ouais.
Il en reste 4 dans la boîte.
Rayman, film très populaire, va néanmoins éloigner cette image de l'autisme comme une effrayante folie. Il y a de la tendresse et du vrai dans ce personnage qui dit en permanence qu'il est un excellent conducteur et qui plante la voiture au premier essai ou lorsque Tom Cruise lui demande comment c'était d'avoir embrassé une fille et que Dustin Hoffman lui répond « humide ». À l'autre bout du spectre, en 2019, la série Atypical de Netflix, dont le succès a conduit à une troisième saison, réussit un pari prodigieux. Elle est centrée sur un jeune homme qui est atteint de troubles autistiques, qui n'a pas de génie particulier, surtout, qui est le narrateur de l'histoire. La fiction adopte son point de vue et ça change tout.
Je suis un mec bizarre. Enfin, c'est ce que tout le monde dit. Parfois, je comprends pas ce que les gens veulent dire quand ils parlent.
Les personnes souffrant d'autisme flirtent, tu sais.
Les filles ne me remarquent jamais vraiment. Je suis pas doué pour reconnaître les signaux.
Elle arrête pas de te sourire.
Tu dois le réduire de 70%.
Le réduire, c'est le sourire, hein, car il a tendance à faire un sourire très 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 large et crispé. Sam, le héros de Atypical. Alors dans Atypical, les stéréotypies, ces gestes obsessionnels dans une situation stressante ou potentiellement stressante, bruit, lumière, interaction inattendue, se manifestent dans le flux du personnage. Nous les observons pas, nous les vivons avec lui et presque dans sa logique. Dans ce dispositif, la série sert de double révélateur. Elle permet à des personnes atteintes de troubles autistiques de montrer ce qu'elles ressentent quand on les regarde par exemple en famille, et elle permet à celles qui n'en sont pas atteintes de relativiser leur propre normalité. Aussi, le personnage de Sam, qui est passionné par les pingouins, les manchots et l'Antarctique, tente de s'inspirer de cette science pour comprendre les neurotypiques, ces autres qui ne sont pas atteints du même trouble que lui et qui se comportent du coup étrangement à ses yeux. Si on rit avec Sam de ses échecs en le voyant tenter d'appliquer à la lettre et en les énonçant les techniques de drague qu'on lui a apprises ou qu'il a cherchées sur YouTube, on en voit en même temps, l'absurdité. Atypical fait de l'autisme le révélateur de la nature de nos liens, de la cellule familiale aux rencontres amoureuses. Voilà le chemin parcouru sur le plan de la fiction, mais dans le champ du documentaire, il faut noter certaines étapes essentielles. En 2008, elle s'appelle Sabine, de Sandrine Bonner, sur la question de la prise en charge des personnes atteintes de troubles autistiques et sur l'impasse que représente pour elle l'hôpital psychiatrique. En 2011, Le Mur, la psychanalyse face à l'autisme, de Sophie Robert, une enquête qui va démontrer par l'absurde l'inefficacité de la psychanalyse comme traitement de l'autisme. Enfin, une forme hybride, qu'on appellera documentaire d'art et d'essai, est en train d'émerger. Elle est parvenue récemment à produire deux magnifiques portraits d'autistes artistes. En 2016, Dernière nouvelle du cosmos de Julie Bertuccelli sublimera l'autiste non-verbal et poétesse Babouyek, dont les mots me traversent encore. Je suis Babouyek, très déclarée sans parole, seule, enfermée dans l'alcôve systémique, nourricière souterraine de la lassitude du silence. Et tout récemment, je vous recommande « Quelle folie » de Diego Governatori, qui accompagne un dialogue itinérant avec Aurélien, autiste, artiste, écrivain. Je finirai sur cette phrase. Il a ces mots pour expliquer pourquoi il est si difficile de communiquer ses idées. C'est comme si aucun point ne pouvait constituer un départ possible.
Un commentaire, Eric Toledano.
Je trouve que c'est très intéressant parce que ça raconte comment la fiction et comment nous, humains, on a voulu représenter l'autisme. Et ça part vraiment de Rain Man. Je sais, vrai que Rain Man a été une référence pour pas mal de gens. Beaucoup d'acteurs qu'on a contactés pour le film sont partis de Rain Man en disant « Moi, c'est la seule connaissance que j'avais de l'autisme. » Et beaucoup de parents aussi se sont plaints à posteriori en disant « Pendant longtemps, on a dit « Notre fils est autiste, quel talent il a alors ?» Donc ça raconte exactement le chemin que vous parcourez. Ce que nous, on a essayé d'explorer, c'est-à-dire que dans un premier temps, on nous a parlé d'un autisme, je vais employer 700 guillemets « sexy », pour arriver vers le spectre qui est très large, jusqu'aux cas les plus sévères, qui racontent aussi quelque chose sur la société et sur la façon dont on peut cloisonner notre regard.
Et alors, quand vous avez essayé de composer à la fois le scénario, mais aussi choisi les acteurs, est-ce que vous l'avez fait, par exemple, en compagnie de ses responsables associatifs, de ses parents, de personnes autistes? Bref, comment vous y êtes pris, Eric Toledano, pour ne pas enjoliver la situation, pour faire en sorte qu'on ne vous fasse pas le reproche qu'on aurait pu adresser rétrospectivement à Rain Man?
Bah, par rapport aux acteurs, on s'est dit, puisque finalement, en étant en immersion dans ces associations, on perçoit quelque chose qui est d'une forme de communication différente, puisqu'on disait justement que nous, on le voit avec des regards de validisme. J'ai apprécié l'expression. Donc du coup, on s'est dit, comment allons-nous expliquer ça? Donc notre deal a été très simple. On a vu les deux acteurs et on leur a dit, plutôt que de vous donner un scénario, dans un premier temps, je vous propose de venir une ou deux heures dans les deux associations et observer si vous ressentez la même chose. Il y a une autre forme de communication qui existe. Elle n'est pas exactement la même que la nôtre. Elle est différente, mais si elle vous intéresse, alors on creusera un scénario pour vous.